care what y'all say.
Bonsoir à tous, c'est Silver Knights et bienvenue pour ce cinquième numéro des podcasts des Cahiers du Catch. Donc ce soir, nous allons traiter du concept de NXT, le troisième show de la WWE, et je serai accompagné pour cela de plusieurs débatteurs prestigieux. Pour commencer, Flying Panda, l'urcidé le plus créatif de l'univers du ring, qui présentera une nouvelle fois sa chronique des news en bambou.
Eh oui, tout à fait, le panda est toujours dans la place. Hey.
Tout baigne.
Même pour les gens qui se plaignent.
Tout à fait. Je vois que monsieur a de la référence. Donc, Canette, il semble que les 6 mètres de neige tombés en Belgique n'affectent pas sa connexion. Touchons du néon pour que ça dure.
C'est DC Universe. What's up?
Oh putain.
What's up?
Oh putain. Là, tu fais flipper, là.
T'inquiète pas, le pire est à venir. À nos côtés aussi, aujourd'hui, un petit nouveau motivé en la personne de Kovacs, donc chroniqueur pour NXT saison 3. Il apportera son regard acéré et compétent sur la question et son accent qui fleure bon le soleil.
Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Bonjour aussi d'ici l'univers.
Eh ben, c'est un plaisir. Et pour finir, mesdames et messieurs, un invité exceptionnel, donc Spanish, incontournable sur le sujet de Next. Bienvenue à la Spanish Announce Table, le seul endroit où sont nées les légendes, où les carrières ont été brisées et où je réalise enfin un rêve de gosse de pouvoir placer cette catchphrase.
Hola todos. Bon, bah, bonjour à tous. Hein. On va essayer de faire une bonne émission quand même.
Eh ben, oui. Je vois pas comment elle pourrait être mauvaise pour le coup. Donc, ce soir,
bah, t'es là, tout simplement.
Ah, bien, puisque c'est comme ça, je me retire. Mais coupez-lui sa connexion, le panda, bordel! Excusez-moi. Donc, ce soir, nous traiterons du sujet de NXT, dont la quatrième saison a commencé la semaine dernière. Dans un premier temps, donc, Spanish va nous présenter le concept de l'émission, sur lequel nous discuterons ensuite. Puis, nous parlerons de l'impact de NXT sur la WWE et sur les catcheurs eux-mêmes. Et pour finir, donc, nous ferons un focus sur le Nexus et nous conclurons sur le sujet. Et Panda finira la soirée avec ses news en bambou.
Tout à fait.
Donc Spanish, est-ce que tu peux nous présenter vite fait le concept ?
Donc NXT, ça a été créé en janvier 2010 quand Vince McMahon est arrivé à la CW et a annoncé que le show s'arrêtait et qu'à la place, il allait mettre en place un concept révolutionnaire et forcément formidable, hein, comme tout. Et c'était de faire un show où on essaierait de mettre des nouveaux talents en valeur sur une période de temps assez courte donnée. Donc, on a vu l'émission arriver. Elle fonctionnait par un système de binôme entre des pros et des rookies. Donc, les pros étaient des gens plutôt prestigieux pour la saison 1. Après, ça s'est un petit peu dégradé. Et les rookies étaient des gens qui étaient formés à la FCW et qui aspiraient à rentrer dans les rosters principaux. L'enjeu in kayfabe étant de donner aux plus valeureux d'entre eux une place dans le roster principal. J'ai bien expliqué ou vous voulez que je vous explique après la saison 1?
Non, c'était bien expliqué, mais quand même, Carlito comme pro prestigieux.
Nous parlerons de cela plus tard. Chers amis, recentrons-nous. Donc effectivement, je rebondis sur ta question, Spanish. Je veux bien que tu nous parles un petit peu rapidement de la saison 1 et de la saison 2, histoire de savoir ce que tu en as retenu.
Alors, pour faire rapide, la saison 1, c'était quand même la saison où était Daniel Bryan, qui a eu un traitement absolument phénoménal, puisque son premier match à la WWE a quand même été en main event du show contre le champion en titre, en l'occurrence Chris Jericho, et là Sarah Gatina pourra très bien insérer un petit jingle à la gloire de son dieu absolu. Mais évidemment, Daniel Bryan étant un personnage charismatique, il n'avait pas besoin de gagner, et on a donc assisté au sacre de Wade Barrett à la place.
Quant à la saison... Super anglais, hein.
Je kiffe ton accent.
Donc, quant à la saison 2, elle a été réalisée dans la lignée de la saison 1 avec le même concept, exactement le même nombre de pros et de rookies. Elle était centrée autour du personnage de Caval. Elle était peut-être un petit peu plus dense en talent, en sens où il y avait beaucoup plus de rookies qui étaient prêts pour les rosters principaux, mais il n'y avait pas vraiment de gens qui sortaient du rang comme dans la saison 1. Et elle s'est terminée par la victoire de Caval, qui a gagné sa place officiellement dans le roster de SmackDown.
Ben merci beaucoup Spanish pour ce très clair état des lieux sur les deux premières saisons. Donc Kovacs, toi qui as assisté à la saison 3, peux-tu nous la présenter en quelques mots également?
Tout à fait. La saison 3, elle a commencé au mois de septembre, d'abord sur Syfy, après quelques épisodes, de passer sur un show exclusivement diffusé sur Internet aux États-Unis, preuve du début de la déchéance. Je dis ça parce que la saison 3 est un peu considérée comme le vilain petit canard de NXT, étant donné que c'est la saison qui est consacrée aux divas. Divas qui, déjà en temps normal, sont pas très très bien traitées à WWE, comme chacun sait. On était passé cette fois de 8 à 6 rookettes qui se sont battues pour le titre ultime de vainqueur de la saison, avec que des pros féminines à l'exception de Primo et de Goldust, et une saison qui a vu la victoire finale de Caitlyn sur Naomi, ou comme chacun pourra dire, la victoire de la beauté sur le talent. Et voilà donc pour la saison 3, et la saison 4, elle a commencé il y a 2 semaines. On est repassé à un format masculin, mais toujours 6 rookies cette fois. Et que dire de plus, si ce n'est que c'est le casting des rookies est quand même un peu plus, comment dire,
Homogène peut-être?
un peu plus homogène, ouais, voilà, exactement, merci. Et parce qu'ils contiennent des gens peu connu, ce qui fait que l'enjeu me semble beaucoup plus ouvert pour cette saison 4, mais ça on pourra en parler un peu plus tard. Voilà.
C'est
Ouais, tout à fait, donc.
excusez-moi les gars, la saison 4 c'est toujours sur Internet ou ils ont trouvé une chaîne?
C'est toujours sur Internet, oui.
D'accord.
Il continue
Aux
sur le concept,
États-Unis, hein, en
effectivement.
France, elle est diffusée sur la chaîne Action, hein. Faut quand même le dire.
Exact. D'accord. Donc si on a
Bien
qu'une
vu, monsieur
option.
Spanish.
Où elle est d'ailleurs commentée par l'excellent père Azéus Cero. Ou
Ah, c'est eux qui commentent Next. NXT, pardon.
sur Action, il me semble, ouais.
D'accord, bah c'est chouette. Ça valorise quand même pas mal le produit, quoi. Donc, bah, Canette, du coup, toi, est-ce que tu as assisté à ces 3 premières saisons et qu'en as-tu pensé ou qu'en as-tu perçu?
Ben, moi non, j'ai pas assisté aux trois. J'ai vu le début de la première saison. J'ai vu le premier épisode de la deuxième saison et j'ai vu un petit peu de la troisième. Mais pour moi, c'est pas le show le plus intéressant qu'on ait. Puisque pour moi, ça sert surtout à construire pour le futur. Donc je préfère voir ce qu'ils font après dans le roster principal plutôt que ce qu'ils font là à NXT, qui n'est franchement pas spécialement intéressant.
D'accord, donc c'est quoi qui t'a plutôt déçu? Enfin, le concept des épreuves, les matchs courts, les gars pas encore formés, un peu de tout ça?
Ouais, un peu de tout en fait. C'est pas ils arrivent pas à réellement intéresser le public en fait. Parce que bon, avec des épreuves totalement stupides, comme porter un baril de bière autour d'un ring. Franchement, c'est pas le genre de truc qui va m'intéresser et qui va me pousser à suivre une émission de la WWE.
D'accord, ok. Panda, ton avis sur la question?
Bah écoute, moi Next, je n'ai vu absolument aucun épisode des 3 saisons, hein. Donc je préfère être franc.
Non, mais c'est bien.
En revanche, j'ai lu au début, je lisais un peu les reviews de Spanish de la saison 1. Après, j'ai un peu lâché en cours de route. Donc, j'ai un avis sur le show. Je trouve que c'est un bon centre de formation parce que ça permet de faire le lien entre la FCW et la WWE. Puisque tu fais des shows dans des grandes salles, tu as des segments micro. Bon, il y a des concours un peu débiles, on va dire, mais bon, ça peut toujours servir. Mais après, la qualité du show en lui-même, je pourrais pas vraiment dire quoi.
D'accord, ouais. Donc ce que tu en ressens, c'est plutôt un show un peu accessoire et qui sert à vraiment lancer les catcheurs pour la suite.
Voilà, c'est vraiment, ça permet de leur donner du temps d'antenne et de les faire découvrir aux yeux du grand public. Par exemple, un gars comme Brian, qui était surtout connu du milieu indie, et donc des fans de l'indie, ça lui a déjà permis de découvrir ce que c'est un show WWE et de se faire connaître du grand public. Donc, voilà.
D'accord. Et justement, en termes de choix des pros, choix des rookies, enfin, vous avez quelques mots à dire.
Le choix des pros, ben Jericho, c'est un très bon choix. Ça, c'est clair et net, hein, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup de bagages techniques, une grosse expérience derrière lui, et puis qui aussi aime transmettre son savoir. Donc, en plus, ils l'ont mis avec Wade Barrett. Wade Barrett a lui-même dit lors d'une interview que Jericho avait été son pro dans le show, mais aussi à l'extérieur du show. Il a vraiment un peu montré toutes les ficelles en backstage. Après, il y a des choix de show qui peuvent se révéler peut-être un peu étranges pour certains, comme Carlito ou Primo. Mais c'est pas prêté à débat, je ne sais pas.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur l'histoire de Carlito, qui est un pro un peu tocard, parce que mine de rien, dans le casting de la saison 1, surtout, bon, je vais laisser le cas de Primo à part, mais le cas de Carlito s'y applique très bien, il y avait quand même un casting extrêmement relevé. Il y avait CM Punk, ex-champion ROH, il y avait R Truth, ex-champion du monde aussi, même si c'était pour la NWA. Et puis il y a les frères Colomb, qui, mine de rien, sont quand même les fils d'un grand promoteur national, en l'occurrence Carlos Colón Senior à Porto Rico, donc qui connaissent quand même le business et ont un vrai background de pro. Et puis il y a Matardi qui a quand même dirigé une fédération, même s'il l'avait montée à la saison dans son garage au fin fond de la Caroline. C'est quand même quelqu'un qui connaît lui aussi le business et qui, à mon avis, a un grand avenir de booker. Beaucoup moins en tant que catcheur. Ça, c'est un peu dommage qu'il ne l'ait pas compris, mais c'est un autre problème.
Donc effectivement, on voit que ces catcheurs de cette saison 1 ont été choisis pas du tout à hasard et il avait vraiment des choses à apporter en tant que pro dans la connaissance du business pour leur rookie. Donc effectivement, et tu penses du coup, vous pensez que du point de vue des choix des pros des saisons 2 voire 3, il y a eu une grosse chute par rapport à ça?
Bah, il y a eu un turnover et je pense que le premier, je ne sais pas s'ils ont vraiment apporté tant que ça, mais au moins ils donnaient du kayfabe, quoi. On pouvait croire qu'ils allaient pouvoir apporter des choses à leur rookie, même si a priori ce n'était pas vraiment le cas, surtout d'après ce qu'a pu dire Matardi a posteriori. Mais voilà, après ils ont voulu varier les pros et c'était normal, histoire que ça ne monopolise pas l'antenne. Et effectivement, là, l'illusion était beaucoup plus difficile et on voyait que certains étaient vraiment là pour faire de la figuration et n'avaient pas grand-chose à faire, soit parce qu'ils n'avaient plus de rookie comme Zack
Exact.
Ryder, ou avaient l'air de s'emmerder constamment comme John Morrison.
Quand tu passes une
Certes.
saison 2 aussi avec Caval qui se fait manager par Michelle McCool et Layla, bon, niveau crédibilité, tu repasseras, quoi.
Je ne
C'est
vais
vrai
rien
que
dire sur les cools parce que il y a quelqu'un quelque part au Portugal qui enfonce des aiguilles dans une poupée vaudou à chaque fois que je dis quelque chose sur elle, donc je vais me taire. Désolé.
C'est ça, pour protéger la santé de Spanish, surtout,
Oui.
ils ne parleront pas plus de l'A-Cool, que ce soit en tant que pro ou au niveau de leur qualité intrinsèque. Je crois que du coup, nous avons fait le tour pour ce qui concerne la définition du concept et nous allons pouvoir passer à la seconde partie. Donc, pour cette seconde partie, nous allons discuter de l'impact du show NXT, à la fois sur la WWE et sur les carrières des rookies principalement, mais également des pros. Donc, Panda, justement, toi qui n'as pas suivi les saisons, comme tu nous l'as dit, de quel point de vue est-ce que tu vois l'impact de ce concept sur les carrières et sur la Fed? Panda, donc je disais, l'impact de NXT sur la WWE, sur les carrières des rookies, éventuellement sur les carrières des pros, et sachant que toi, tu n'avais pas assisté aux 3 saisons, du coup, tu peux voir, enfin, tu peux estimer quel impact ça a pu avoir
Ouais.
de la sorte.
Ok, ben écoute, Silver, pour moi l'impact il est assez simple. Déjà au niveau du Nexus, hein, ça a quand même relancé l'année 2010 à Raw, et ça a notamment permis de lancer quelques bonnes feuds, notamment avec John Cena. Après, l'impact sur les pros, je pense par exemple sur quelqu'un comme Jericho, Regal ou Goldust, eux ils n'avaient pas grand-chose à se prouver à eux-mêmes ou à prouver au public, donc l'impact est, je vais pas dire nul, mais il n'est pas très important. L'impact sur les rookies, ça les a fait connaître, tout simplement. notamment les membres du Nexus, surtout les premiers, peut-être moins les gars de la deuxième saison, à part Caval qui a gagné la saison, ainsi que les deux cocos qui ont rejoint le Nexus par la suite, et Alex Riley en bon toutou du Miz. Pour la saison 3, en revanche, là, c'est un peu plus problématique, à part Caitlyn qui s'est fait remarquer avec ses ébats avec Dolph Ziggler. Mais sinon, l'impact, voilà.
D'accord, un impact finalement qui est un peu masqué par le Nexus qui a pris la part du lion, quoi. Voilà. Canette, de ton côté, comment tu vois cet impact?
Moi, un peu la même chose, hein. Ça a lancé le Nexus, donc c'est quand même la grosse feuille de cette année. Et puis après, ça a servi à pas grand monde en plus, en fait, à part Riley qui est avec The Miz maintenant, qui est champion de la WWE. À part ça, franchement, ça a servi à pas grand monde, je pense. Même Caval, qui a gagné la saison 2, pour moi, n'a pas vraiment profité de cet avantage, parce que vu la losing streak qui se ramasse à SmackDown pour le moment, avec un seul match gagné, puis son title shoot foiré, c'est pas vraiment la meilleure façon d'être mis en avant. Sinon, Daniel Bryan, qui est mis en avant aussi, lui n'a pas profité d'NXT, je veux dire, parce qu'il était déjà très populaire avant.
Ouais, mais ça l'a fait connaître du grand public quand même.
Oui, voilà, ça l'a fait connaître du
avant,
grand public.
Avant, c'était vraiment les fans de l'ROH qui le connaissaient.
Ouais, mais maintenant, enfin, pour moi, c'est pas grâce à ça qu'il est champion US pour le moment, quoi.
Bah, moi, il avait du talent, bien sûr. C'est pas. Disons que.
Je veux dire qu'il aurait... Ouais, il aurait pu réussir son NXT.
Ouais, Kovac.
Je pense quand même que pour moi, par exemple, Daniel Bryan, je le connaissais pas du tout. Hein. J'avais vaguement entendu parler son nom au début de NXT 1, justement parce que sur le net, je voyais « Ah mon Dieu, Danielson !» Mais moi, je le connaissais pas. Donc, je pense que ce qu'il a fait à NXT, c'est-à-dire sa feud avec Michael Cole, sa relation avec le Miz, a beaucoup aidé justement pour que des gens comme moi, qui le connaissaient seulement de réputation, mais l'avaient jamais vu avant, on peut le rendre super populaire quand même. Parce qu'il a été très, très exposé grâce à cette émission et grâce à son interaction avec le Miz et Michael Cole.
Ouais, c'est pas faux. Y compris interaction au micro ou surtout in-ring?
Surtout in-ring, parce que encore qu'au micro, il a montré qu'il n'était pas mauvais. Je me rappelle quand il était rentré dans l'art de Michael Cole en lui disant qu'il valait pas Jim Ross, tout le bazar. On sent quand même que c'est pas un grand orateur à la Jericho ou à la CM Punk, mais il est quand même correct. Hein. Il a montré qu'il savait faire, en tout cas.
D'accord, bah en tout cas, effectivement, on peut avoir un impact positif de ce point de vue-là. Spanish, de ton côté, toi qui as vraiment suivi les saisons épisode par épisode, tu penses quoi de l'impact?
Alors Spanish, il va dire des choses assez bizarres. Pour moi, le truc le plus important qui s'est passé sur toutes les saisons de NXT, c'est un heel turn, c'est celui de Michael Cole, qui a vraiment rodé et construit son personnage de commentateur heel à NXT. En étant, entre autres, un fanboy boy du Miz. Après, pour l'impact vraiment sur les catcheurs et sur les rookies, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous faire halluciner, mais je pense que l'angle du Nexus aurait très très bien pu exister sans même qu'on connaisse les types avant.
Ouais, ça aurait même été mieux.
Sans même qu'ils fassent NXT saison 1, ça aurait été possible de faire le même angle d'invasion, ça aurait peut-être même été encore plus énorme. Un peu plus.
Attends, tu veux dire, excuse-moi, je te coupe, tu veux dire 8 gars qu'on n'a jamais vu auparavant qui débarquent et qui foutent le show en l'air, c'est ça que tu veux dire?
Oui.
Ouais, ça aurait été...
Ça aurait fait encore plus peur avec le mystère, quoi.
Ça aurait été énorme.
Ouais, c'est ça aurait été encore plus peur avec le mystère et ça aurait vraiment été anxiogène pour le public qui se serait demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vraiment pour de vrai ou pour de faux. Ouais. Sinon... Moi, je suis pas du tout d'accord sur le fait que Caval a pas gagné grand chose. Au contraire, Caval, c'est un des seuls rookies à la WWE qui commence en étant babyface. C'est très très rare. C'est très très compliqué de prendre quelqu'un qui sort de nulle part et de le pousser pour être babyface. Caval, il perd peut-être tout le temps, mais il a du temps d'exposition. Je pense que Darren Young ou Zack Ryder, ils rêveraient de perdre toutes les semaines à SmackDown. à l'heure actuelle, vraiment. Donc, il faut pas non plus imaginer qu'il a été trop pénalisé. Après, sur le bilan de la saison 3, il n'y a pas forcément d'accord à dire, beaucoup de choses à dire, pardon, sur ce qui s'est passé, parce que je pense pas que ce soit un problème de NXT, c'est un problème de la manière dont la WWE considère son roster féminin, c'est-à-dire très mal. Vraiment.
Pour les divas, je suis d'accord avec toi, mais pour Caval, franchement, Brian aussi a commencé Babyface. Il a été heel pendant l'invasion de Nexus, mais comme il a été
Un
viré
longtemps,
ensuite,
ouais.
quand il est revenu, c'était Babyface. Et à la différence de Caval, Brian, il a commencé sa vraie carrière WWE à son retour à SummerSlam en Babyface, et Brian, il gagne.
Ouais.
Je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, Caval commence sa carrière à la WWE quand il se fait virer du Nexus avant de
Brian, tu
revenir à
veux dire
Brian,
Brian.
Brian.
la Ouais, Brian, et que la WWE décide de créer du désir autour de Daniel Bryan.
Ouais, le buzz qui a eu tout l'été, quoi. Qui a suivi
Voilà,
pendant.
mais bon, après, ça c'est
Et
un
finalement,
point de vue.
tu juges que ça a été un bide, finalement, tout ce qu'il y a eu avant avec Brian, ou pas loin, quoi, enfin, une forme d'échec?
C'est pas une forme d'échec parce que ça permet quand même aux rookies d'avoir du poil aux pattes et de se former à la WWE, d'être sûr qu'elle lâche pas des tocards dans la nature, mais qu'elle lâche dans la nature des mecs qui sont quand même un petit peu expérimentés, quoi. Ça évite d'avoir, je sais pas moi, comment il s'appelle, putain, j'ai déjà oublié son nom, Lucky Cannon. Qui part dans un angle d'invasion, quoi.
Qui ça?
T'imagines le Lucky Cannon, membre du Nexus, qui pète la gueule à John Cena, c'est pas crédible.
Certes.
Donc voilà, ça permettait déjà un peu de trier le bon grain de livret, de passer un premier coup de tamis et de voir qui était éventuellement capable de mériter une place sur une storyline majeure ou pas, quoi. Mais c'était plus à vocation interne et à vocation quand même de commencer à créer des personnages pour les vrais fans de la WWE, parce que NXT c'était pas non plus un show avec des audiences énormes.
Ah oui, il y a des audiences 7 à 8 fois inférieures à celles de Raw, et c'est sûr qu'il y a des gens qui ont découvert le Nexus que lors de l'invasion de Raw et qui n'avaient aucune idée de qui étaient ces catcheurs méchants et surprenants, quoi.
Ben, moi perso, il n'y aurait pas eu les reviews sur les CDC, j'aurais jamais su qui c'étaient les mecs, hein. Voilà. Comme me disait Kovacs pour Brian, moi je savais que voilà, c'était un monstre de l'indie parce qu'il y en a qui se paluchaient dessus sur Internet, quoi. Sinon, j'aurais jamais su, quoi.
Donc voilà, bah je vous remercie tous. Je crois qu'on voit bien en termes d'impact, différents impacts ce qu'on a eu et que le Nexus ressort. Et bah justement, la dernière partie concerne le Nexus. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Donc pour cette dernière partie, on va faire un dernier focus sur le Nexus. Donc est-ce que le Nexus, c'est le coup de chance absolu qui est tombé lié à NXT, mais sans plus, et finalement ça reste un cas à part, ou est-ce qu'au contraire c'est une forme d'exemple qui est un peu la partie émergée de l'iceberg qui est NXT, mais qui valorise le reste? Donc vos avis, Panda, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, c'est sûr que quand tu penses à NXT, tu penses cash au Nexus. Donc c'est sûr que le Nexus c'est vraiment le gros truc de l'année 2010 et qui a un peu vampirisé les shows d'ailleurs à un moment donné, notamment quand il y a eu SummerSlam. Après il faut savoir qu'à l'intérieur du Nexus tu retiens surtout Wade Barrett, c'est vraiment l'élément qui ressort et cette histoire l'a un peu starifié, ça l'a vraiment fait connaître plus que les autres. Plus que Heath Slater ou que. Voilà, on retient Justin Gabriel parce qu'il a un finish de fou. Le 450 splash. Il a réussi.
Bien vu.
Il y avait Skip Sheffield aussi, c'est dommage qu'il soit blessé parce
Oui.
qu'il faisait un bon bras droit.
C'est vrai.
Ouais, un bon bras droit qui faisait la taille de mes deux cuisses réunies.
Voilà.
En plus, il avait un bon rôle d'enforcer qui était vraiment pas mal aussi.
Ouais. Et il me manque.
Il manque.
Ouais, je pense qu'il manque à tout le monde et surtout à Vince McMahon.
Ouais.
Best of. Donc, Bacanet, ton avis sur le Nexus?
Bah, c'est la même chose que Panda, même en un peu plus poussé à mon avis, parce que pour moi c'est vraiment Barrett qui sort du lot, et les autres ça leur a, enfin ça les a mis dans le main event, mais à part ça franchement c'est pas les autres qu'on retiendra de ce du Nexus quoi. C'est pas vraiment, à part au tout début leur attaque quand ils ont interrompu le match entre Cena et CM Punk, à part ça franchement pour moi, à part Barrett, il y a pas grand monde qui va en sortir.
Voilà, et encore Barrett, moi perso j'attends de voir ce qu'il va donner après, une fois l'angle Nexus terminé quoi. Une fois la feud avec Cena fini, une fois le Nexus passé, c'est vraiment, quand il va devoir confirmer, ça va être très dur pour lui je pense.
Moi je pense qu'il a les capacités à mon avis.
Oui, il a les capacités, mais il va y avoir une attente très forte. Ouais, et on va voir comment il va gérer ça quoi, on verra.
On verra bien.
Ouais. Spanish, ton point de vue donc sur le Nexus?
Le Nexus et NXT, ben le Nexus et NXT forcément, parce que c'est comme ça que ça a commencé, mais d'un autre côté, il faut voir aussi que l'air de rien sur les 8 mecs qui ont attaqué Cena lors de la naissance du Nexus, il y en a combien qui sont encore dans le Nexus tel qu'on le connaît aujourd'hui? Il n'y en a plus tant que ça. Il y a eu énormément de turnover, des gars blessés, des gars virés plus ou moins pour des bonnes raisons. Et des pièces rapportées après, et finalement c'est un petit peu bancal quoi, ça manque de constance et c'est un petit peu dommage.
Enfin, comme toutes les stables, hein, t'as souvent des changements de membres quand même.
Je veux dire, ouais, mais là, sur les 8 qu'il y avait au départ, il en reste combien? 4?
Ouais, il en reste 4, ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y en a deux qui sont partis sur blessure. Il y a Michael Tarver et Skip Sheffield, c'est vraiment sur blessure.
Ouais. Ouais, il y en a eu un viré aussi.
Et voilà, celui qui s'est vraiment fait virer, c'est Darren Young, parce qu'il a voulu défier Cena, quoi.
Daniel Bryan. Bryan, moi je parlais. Hein.
Ah oui, et Bryan, vraiment... oui, c'est vrai, il y a Bryan qui s'est fait virer, mais Darren Young, lui, s'est vraiment fait jeter du Nexus, quoi. Par les autres.
Ouais, ouais.
Il s'est vraiment fait bidonner, tout ce qui va avec.
Ouais.
D'ailleurs, on n'a pas dit, mais il faut quand même préciser que Bryan a commencé en tant que rookie à Next, et est maintenant pro, lors de la 4e saison.
C'est vrai, il a bouclé la boucle.
Voilà.
Et ouais, Kovacs, ouais. Justement, histoire de boucler la boucle, ton avis sur le Nexus?
Nexus, c'était une très bonne idée parce que ça a vraiment été le moment fort de l'année. Le problème a été pour moi que ça a tellement vampirisé Hero et SmackDown passé un moment, mais ça a aussi vampirisé NXT 2. Parce que je pense qu'on a beaucoup moins parlé de la deuxième saison que de la première, justement parce que pendant que Caval et les autres faisaient mumuse à faire des tours de ring pour choper des immunités, ben même pendant ce temps-là, il y avait Barrett et les autres qui cassaient la gueule de John Cena, de Randy Orton et qui faisaient même basse sur la fédération, quoi. Donc du coup, ça a un peu mis un coup à l'aura qu'aurait pu avoir la saison 2.
Ouais, peut-être qu'en fait ça aurait dû être la saison 2, la saison féminine en fait. Parce que puisque ça a été la saison 3.
Disons que comme ça au moins ça se serait pas vu, parce que quand tu compares le Nexus qui est un clan dominant depuis X mois, et qu'à côté en saison 2, il y en a deux qui sont partis justement chez Nexus, il y en a un qui sert de manager à Miz et Caval qui a gagné. Mais qui se retrouve à perdre contre Dolph Ziggler et à perdre quasiment de longue depuis qu'il est à SmackDown, ça fait un peu... on tombe de plusieurs étages entre la première et la deuxième saison. Je ne parle même pas de la troisième, parce que comme a dit, je crois que c'est Canette ou Panda, je ne sais plus, mais bon, quand on voit déjà au départ comment la WWE traite sa division féminine, bon, il n'y avait pas beaucoup d'espoir à avoir pour la troisième saison de NXT. Mais c'est vrai que Nexus est une très bonne idée, c'est vraiment un très bon clan, mais ça a un peu foutu les autres saisons de côté.
D'accord, bah je te remercie de ce point de vue, je vous remercie tous, je pense qu'on a bien fait le tour, et donc on va pouvoir conclure sur cette émission. I spit in the face of people who don't want to be cool. Donc pour finir, je vous propose de dire ce qui vous, dans le concept NXT, vous plaît, ne vous plaît pas, et placez vos coups de cœur, enfin votre coup de cœur et votre coup de griffe concernant le sujet. Donc, Canette, ben, on va commencer par toi. On va partir du nord et descendre vers le sud. Hein.
Ok. Donc pour moi, mon coup de cœur, ben, c'est simple, ça va être Nexus. Pour moi, c'est la meilleure storyline de l'année. Barrett qui serait la révélation de l'année aussi. Donc vraiment le gros coup de cœur. Après, en coup de griffe, je pense que je dirais le comportement pour la saison 3, qui était vraiment mauvais. Bon, après, c'est la division féminine, donc c'est un peu normal, on va dire. Mais non, pour moi, ce serait le coup de griffe. Ouais.
Mais même sans ça, ils ont même malgré le traitement de la WWE sur la division féminine, ils ont vraiment poussé le bouchon pendant la troisième saison, quoi.
Ben oui, avec les commentateurs qui s'en foutaient complètement et tout, enfin, c'était vraiment pas une bonne saison à mon avis.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de mépris, donc Spanish, ton coup de cœur et ton coup de griffe?
Ah ben moi, mon coup de cœur, il va commencer avec la saison 3 de NXT, justement, parce que mine de rien, c'était peut-être celle qui a le niveau le plus relevé, parce que je pense qu'il y a vraiment deux filles qui étaient très bonnes là-dedans, sur les six.
Elles sont
En
toutes bonnes,
l'occurrence,
hein.
Naomi et AJ, tu peux prendre du bromure, s'il te plaît. Et ben ça faisait quand même 2 sur 6, c'est-à-dire 33%. Je suis pas sûr qu'il y ait 3 personnes qui soient vraiment très bonnes dans la saison 1. Personnellement, j'en vois que 2. Idem pour la saison 2. Donc finalement, c'était peut-être la saison la plus relevée, hein, la saison 3.
La saison 2, on a eu Husky Harris, Michael McGillicuddy et Gavel. Donc ça fait 3.
Ça se
Je suis
discute, mais on va.
pas sûr qu'ils aient autant le niveau pour rejoindre un roster principal que Naomi et AJ toutes les deux. Et pour mon coup de griffe, par contre, bah, ça va être très simple, ça va être le final de la saison 2 avec un main event qui ressemblait à un épisode de Benny Hill, tellement
Oh
c'était
oui.
n'importe quoi, tellement c'était mal exécuté.
Rappelons-nous de Riley qui casse la gueule de Showtime Percy Watson.
Oui.
Alors que 2 secondes après, il le considère comme un allié. Enfin, ça a été n'importe quoi, ce
Ouais, et
coup-là.
puis le no-sell de Titus O'Neil sur le coup de pied de MVP aussi, c'était pas mal. C'était particulièrement violent. Donc, Panda, ton coup de cœur et ton coup de griffe?
Ah bah moi, mon coup de cœur, ça va être un peu dans les à côté de NXT, pardon, parce que c'était quand même la feud entre le Charentais et TDS avec Kovacs et son côté background
Merci.
de rien qui a vraiment animé cette saison 3, parce que pour dire, c'est ce qui m'a forcé, ça m'a même forcé à aller relire les reviews quand le Charentais était entré en guerre avec Vince, notamment qui avait eu pas mal de commentaires. Et donc pour le coup de patte, bon, je vais pas vraiment en avoir parce que j'ai vraiment pas suivi le show, donc ce serait un peu salaud de ma part d'en mettre un, quoi.
Ça me paraît acceptable. Kovacs, à ton tour donc de donner ton coup de cœur et ton coup de griffe.
Outre la saison 3 que j'ai bien aimé malgré tout et le Nexus qui est incontournable, mon coup de cœur sera pour Caval qui m'a beaucoup impressionné tout au long de la saison. Et dont j'attendais un début de carrière un peu plus flamboyant à SmackDown. Il fait toujours de très bons matchs à SmackDown, mais hélas, il est dans une losing streak, on dirait MVP, c'est déplorable. Mais oui, non, mon coup de cœur, ce serait Caval qui m'impressionne à chaque fois. Je marque beaucoup sur lui.
D'accord, et ton coup de griffe donc?
Mon coup de griffe, ce serait en fait le comportement de Michael Cole dans la saison 3 de NXT. Qui en a vraiment beaucoup, beaucoup trop fait. Je me rappelle vers la fin de la saison, quand il tournait carrément le dos au ring pour regarder ses messages sur son iPhone. Bon, qu'il soit heel, ok, mais là, je pense qu'il avait traversé une limite qui était au-delà du heel classique, quoi. C'était vraiment du gros foutage de gueule et ça m'avait beaucoup énervé.
D'accord, bah je reçois bien, donc je vais en profiter pour glisser moi aussi mes coups de cœur et enfin mon coup de cœur et mon coup de griffe. Donc en termes de coup de cœur, je dois parler de ce qui m'a surpris, c'est-à-dire plutôt le comportement micro de Daniel Bryan. En fait, je l'ai découvert vraiment au micro dans sa feud contre Cole et un peu dans sa feud contre Miz. Au début, c'était on va dire un gogol un peu souriant et qui avait l'air tout gentil et qui n'arrivait pas à vendre d'autres sentiments. C'est l'impression que ça me donnait en tout cas. Et je l'ai vraiment vu se transformer au fur et à mesure de ses confrontations avec Miz et avec Cole, et surtout avec Cole d'ailleurs. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Le reste était plus ou moins attendu. Et en termes de coup de griffe, je dirais l'élimination de Titus O'Neil en saison 2, qui part au bout de, je sais plus combien, 3 ou 4 semaines, enfin un truc complètement aberrant, et alors que la première saison et même la troisième saison avaient été mieux gérées, m'a-t-il semblé, sur les éliminations. Donc voilà pour mes avis sur la question. Ben, je vous remercie bien pour tout ce qui concernait Next, et on va pouvoir passer aux news en bambou de notre ami Panda.
Donc c'est News en bambou volume 2. On commence avec cette annonce sur le Twitter de Dixie Carter. Un nouveau DVD sur Mick Foley sera prévu pour avril 2011. Il retracera les meilleurs moments de Mick au sein de la Fédération d'Orlando. Donc en gros, ces 2-3 dernières années, hein, si je dis pas de bêtises. Elle aurait également aussi annoncé, apparemment, peut-être que c'est des rumeurs, que le contrat de Samoa Joe aurait été reconduit. Voilà une bonne petite nouvelle. Ensuite.
C'est marrant parce que sur Mick Foley, on dirait qu'il y a une grosse bataille du cœur entre la WWE et la TNA, et je trouve ça assez intéressant à l'approche du Hall of Fame.
Il y a du fric à se faire sur son dos, ça c'est clair. Hein. Forcément, t'annonces Mick Foley. T'es sûr de faire de l'investissement. Alors.
Surtout Foley est en. Pardon, excuse-moi.
Non, mais y a pas de mal, vas-y.
Surtout Foley est en train de sortir un disque, hein, un livre.
Un livre,
oui.
Donc c'est aussi pour ça qu'il sort sur la vague. Bon, maintenant, un DVD des meilleurs moments de Mick Foley à la TNA, ça fait combien? Un quart d'heure?
Ouais. Elle est pas mal. Donc on quitte la TNA pour aller à la WWE, à SmackDown plus précisément, car vous le savez sans doute, mais Todd Grisham ne fait plus officiellement partie de l'équipe des commentateurs, et il a été remplacé par Josh Matthews. Et apparemment Vince McMahon n'était pas très content de son travail. Donc vas-y.
Ah, je pense que Grisham va retourner commenter du foot et ça sera sans doute très bien pour lui aussi.
Voilà, on lui a conseillé notamment de faire ça. On reste là, on va vers un ex-WWE. Je vais vous donner quelques nouvelles du plus déjanté des catcheurs alcooliques, à savoir bien entendu Scott Hall, qui héberge depuis peu l'ancienne star de la WWE, Vicky Ortiz. La famille de l'ex Razor Ramon espère par cette occasion qu'Ortiz puisse veiller sur lui, car ce dernier a eu quelques petits problèmes de comportement ces derniers temps. Il s'était notamment emboucané avec un dépanneur, ce qui a provoqué l'intervention de la police. Toujours aussi classe, le Scott.
C'est marrant d'utiliser Ortiz comme babysitter, je trouve ça assez drôle.
Donc, comme vous le savez, les deux matchs Edge, Kane et Del Rio Mysterio qui étaient prévus à TLC ce dimanche ont fusionné pour donner un Fatal 4-Way pour le titre. Alors attention, je dis Fatal 4-Way, mais c'est un TLC, hein. C'est juste qu'ils seront 4. Donc, il semblerait que la principale raison soit la crainte pour la WWE de devoir raccourcir les autres matchs de prévu suite à un encombrement de la carte. Car évidemment, faire deux TLC, ça prend beaucoup de temps. En revanche, il est précisé que si la WWE a peur de devoir couper les autres matchs, elle s'en fout complètement du match des divas. Hein. Ça peut faire 30 secondes, c'est pas grave. Hein. Donc,
pas d'accord là-dessus, si tu permets.
Vas-y, dis.
Justement, à mon avis, si la WWE a réduit la taille des matchs et condensé un peu
les matchs. Pour la blessure de Rey Mysterio aussi.
Non, laisse-le parler.
C'est aussi pour laisser de la place aux divas. Je pense vraiment que la WWE a vu que la TNA avait eu le courage de faire un main event en cage entre Mickey James et Tara.
Oui, ce qui a donné l'idée du match en table.
Que les audiences de la TNA n'avaient pas été mauvaises et qu'effectivement il fallait peut-être redonner un peu de courage au roster féminin et lui montrer que finalement, quand on décide d'ajouter quelqu'un, on prend pas une nana qui a débuté il y a un mois le 4.
Bah, alors, perso, je te donne raison, Spanish, mais apparemment mes sources sont pourries. Mais je te donne raison sur le coup, hein, parce que moi aussi, je pense que le match en cage a pas mal chamboulé les choses pour les divas, du moins j'espère pour elle. Donc je vous disais une première raison, il y en a une deuxième, qui serait que Kane, n'étant pas fait à la base pour ce type de match, Rajouter deux High Flyers comme Riré et Burnet permettrait de combler les lacunes du gros monstre rouge. Dans ce genre de match, j'entends bien. Hein. Et donc de rendre le match beaucoup plus intéressant. Parce que c'est vrai que si Edge doit porter tout le show face à Kane, enfin tout le match pardon face à Kane, c'est peut-être un peu limite. Même si Kane peut être bon, hein, mais...
Ouais, Kane a fait pas mal de ladder match qui était
oui,
très correct.
Il a gagné
hein,
il
dans le premier Money in the Bank qui était très bien. Il n'y a pas de souci.
Voilà,
hein.
Mais il est peut-être plus à l'aise s'il y a plus de catcheurs. Peut-être.
Puis la bonne nouvelle, c'est que ça enlève le match Rey Mysterio Alberto Del Rio, qui était censé être au départ, si je me rappelle bien, un match de chaise, qui n'est pas la stipulation la plus formidable du monde. Donc. Faire un match de chaise en moins pour les mettre dans le TLC, c'était vraiment une très bonne décision.
Mmh. Ouais.
Bah du coup, le match en chaise, c'est le celui de John Cena contre Barrett.
Voilà, qui vont se taper dans le dos pendant trois quarts d'heure, ça va être très drôle.
C'est ça. Donc ce dimanche, il y a TLC, mais la veille se déroulera le dernier pay-per-view de l'année pour la ROH, qui se nomme Final Battle. Donc, pour les 2-3 du fond qui dormaient, je rappelle, la ROH est la fédération indie la plus importante aux États-Unis. Donc, en gros, c'est un peu la troisième fédération de catch. Donc, au programme, notamment, il y aura un match tag team pour le titre entre les Briscoe Brothers et les champions en titre, les King of Wrestling, équipe formée de Claudio Castagnoli et Chris Hero. Il y aura un autre match pour le titre, mais cette fois-ci le titre suprême, où le tenant Roderick Strong tentera de conserver sa ceinture contre Davey Richards. Il y aura également un match féminin, un tag team féminin, avec une bonne vieille connaissance de la WWE, notamment de Kovacs, puisque Serena sera également de la partie, puisqu'elle combattra Daisy Hayes et Amazing Kong, qui n'est autre que l'ex Awesome Kong de la TNA. Donc dans un tag team match, et elle fera équipe avec Sarah Del Rey.
Ça promet.
Ouais, ça fait rêver
exactement. Et enfin une autre grosse affiche avec l'affrontement entre El Generico et Kevin Steen, qui donc devrait conclure une feud qui a débuté l'année dernière entre les deux anciens coéquipiers. Et ce match a un double enjeu, car si El Generico perd, il devra retirer son masque. En revanche, s'il gagne, son opposant devra quitter la Ring of Honor. C'est bon pour moi.
Je peux juste rajouter un petit truc sur la ROH.
Vas-y, mon pote.
Vas-y, fais-toi plaisir.
Bon, d'abord, c'est super bien. Ensuite, je pense qu'au cahier du catch, s'il y a quelqu'un qui veut nous faire des reviews des shows, on lui ouvre les bras tout de suite et on l'embrasse très très fort. Surtout Sarah, surtout tout le monde. Et pour terminer, c'est diffusé en France sur MCM. N'oubliez
alors,
pas.
Alors écoute, mon bon Span, là tu m'ouvres une porte parce que je réserve une petite surprise concernant le pay-per-view de la Final Battle. Comme qui dirait Axel, stay tuned.
Mais non, exactement. Disons pas plus et gardons quelques surprises pour la période de Noël.
Voilà.
Eh bien, chers amis, je vous remercie tous donc d'avoir participé à ce podcast. Je remercie aussi les auditeurs d'être arrivés jusque-là et d'avoir traversé les aventures qu'ont été ce podcast, aventures tumultueuses s'il en est.
La donc, malédiction.
La malédiction, c'est ça, des colons, tout à fait. Donc, bah, Panda, je te remercie d'avoir participé encore une fois au podcast et avec tes news en bambou.
Bah, de rien, c'est toujours un plaisir, mon bon, tu le sais.
Plaisir partagé s'il en est. Canette également, qui a survécu à quelques coupures de réseau et qui a toujours su rester présent. Merci d'avoir été là.
Merci à vous. Hein. J'espère que ce podcast sera pas trop long parce que bon, il a l'air d'être quand même un peu plus long que ce qu'on fait d'habitude.
Plus c'est long, plus c'est bon. Donc Kovacs, mille merci également d'avoir participé au pied levé à ce podcast avec nous.
Ben, merci à toi de m'avoir invité et puis merci de m'avoir accueilli au CBM.
Je t'en prie, c'est un plaisir.
On verra la facture.
C'est ça. Spanish qui lui a été prévenu environ une heure avant que le podcast commence en connaissant à peine le sujet. Donc merci d'être venu et puis d'avoir participé de manière aussi convaincante.
Ben, on essaiera peut-être de refaire ça une autre fois, mais après, parce que là, ça va être Noël, donc on va tous mettre des beaux DVD de catch sous le sapin et puis... On va regarder des gros costauds en slip passer à travers des tables. Pour le
Des
réveillon,
tables
c'est toujours
espagnoles.
Sympa, non?
Des tables espagnoles.
Des tables espagnoles. Tout à fait, ça sera le mot de la fin, donc. Nous regarderons sous le sapin de Noël des gros musclés en slip passer à travers des tables espagnoles.
Moi, perso, j'ai regardé des knockouts, hein, mais ça vous regarde. Hein.
Merci à tous et bonne soirée, au plaisir.
Hey, ciao.
Allez.
Au revoir.